France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Le Premier ministre François Bayrou l'a redit cette semaine, il faut trouver pour le prochain budget 40 milliards d'euros d'économies. Mais face à l'urgence climatique, face à l'effondrement d'un glacier en Suisse, face à des océans de plus en plus pollués, est-ce que l'environnement échappera à cette cure d'austérité? Il y a 2 ans, le rapport Pisani-Ferry, remarqué et salué, estimait que le besoin d'investissement était de 34 milliards d'euros chaque année pour affronter tous ces dérèglements climatiques. Sauf que depuis Donald Trump a été réélu, le pacte vert européen a été en partie détricoté et certains pesticides sont en train d'être réautorisés. Pourquoi tous ces sujets sont aujourd'hui minorés, mis de côté? On en parle avec notre invitée, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer, ainsi que de la Pêche. Elle est dans Questions politiques ce dimanche, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Karine Bécard.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous interviewer comme chaque dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et Françoise Fressos du journal Le Monde.
Bonjour.
Alors l'émission commence toujours avec vos images de la semaine, ce qui nous permet de revenir sur les temps forts de l'actualité. Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous en particulier, Agnès Pannier-Runacher?
J'ai pris l'image d'une petite... petite commune de Suisse, Blatten, qui vient d'être ravagée par la rupture d'un glacier. Mmh. Cette rupture d'un glacier, un éboulement. Cette rupture que vous voyez derrière moi, le village est littéralement enseveli, il est détruit. C'est l'effet du dérèglement climatique. J'aurais pu prendre une autre image. J'aurais pu prendre celle de l'évacuation de 17 000 Canadiens en ce moment suite à un feu de forêt. J'aurais pu prendre aussi celle d'un moustique tigre soupçonné de diffuser le chikungunya dans le Rhône. J'aurais pu aussi mentionner le coût de la grêle du 3 mai dernier qui est évaluée à 1 milliard d'euros. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que le dérèglement climatique, il est entré dans notre quotidien, que c'est... plus que jamais une invitation à l'action. Et vous mentionnez dans votre introduction la question de nos finances publiques. Et moi, je le dis très fortement, la dette écologique, elle n'efface pas... La dette financière, pardon, n'efface pas la dette écologique. Et c'est aussi sur ça que nous devons travailler.
Alors, si on dit un mot supplémentaire sur ce qui s'est passé donc, dans ces Alpes suisses, cette image-là, tous les Français l'ont vue. Grosse inquiétude en Savoie, en Isère. Nous, on sait les surveiller, nos glaciers. On en est où, en fait? Est-ce que c'est possible, un effondrement comme ça d'un glacier en France?
C'est l'objet d'un plan que j'ai lancé en tout début d'année. Mmh. C'est-à-dire que nous avons des équipes de l'Office national des forêts. Alors, il y a une équipe spécialisée dans cet Office national des forêts sur justement cette question des glaciers et des lacs subglaciaires et qui sont en train d'aller expertiser endroit par endroit.
Il y en a combien? Il y en a beaucoup, des glaciers à surveiller?
Vous avez plus de 300 sites qu'il faut aller expertiser pour aller vérifier, pour, c'est ce qu'on appelle la levée de doute, c'est-à-dire matérialiser quel est le niveau de risque. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de risques. Il y a des endroits où il faut anticiper le fait qu'effectivement ce type d'événement peut arriver de façon à tout de suite prévoir les mesures de prévention, les mesures d'information des populations, mmh, et les mesures aussi futures dans la manière dont on construira dans ces communes pour précisément protéger les populations. Et en fait, ça nous rappelle une chose, c'est que l'écologie, ce sont des politiques de protection des populations.
Mais dans ces protections, on a déjà mis des capteurs, pardonnez-moi, sur ces...
Tout à fait.
Ouais. Enfin, et on a des images satellites qui surveillent tout ça en permanence.
Alors, ce n'est pas des images satellites, parce qu'il faut aller sur le terrain, parce que c'est de la géologie. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe depuis le ciel. Nous avons effectivement des notions de où les risques sont élevés et où les risques le sont beaucoup moins. Et c'est sur ces risques élevés que j'ai débloqué des enveloppes aussi, pour protéger les populations, mettre en place par exemple des ouvrages, des suivis, des capteurs qui permettent de faire en sorte que ce qui est arrivé en Suisse soit anticipé pour mettre à l'abri les populations, soit freiné dans son risque.
Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir des déplacements de population nécessaires d'ici dans les 10 prochaines années?
Mais bien sûr qu'il va y avoir des déplacements de population. Je veux dire, la question se pose dans
en France,
une commune.
Hein, on est d'accord. Hein, en France,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une commune française,
bien sûr.
Même si ça peut nous paraître lointain. Et la question de la montée des eaux et de l'érosion côtière se pose aujourd'hui. Et ça se pose dans un avenir proche, dans un avenir qui nous concerne nous. Pas seulement qui concerne nos enfants, qui nous concerne nous. Donc il faut prendre ces sujets avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Et moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est la manière dont, effectivement, le paysage politique minore ces niveaux de risque, parce qu'au fond, ils sont portés par une forme de lâcheté et de déni. Et que
ça, on va largement
leur
parler.
Position est plutôt de fermer les yeux.
On va largement en parler pendant l'émission.
Je crois pas.
Voilà, on va pas commencer le débat politique parce que voilà, on va y revenir et c'est très intéressant effectivement. Autre image de la semaine, beaucoup plus politique, celle du député socialiste Boris Vallaud, arrivé troisième, donc faiseur de roi du congrès du PS. Et ça, c'est avec vous, Françoise.
Faiseur de roi, mais qui donne pas sa position pour le moment, qui hésite. Moi, ce qui m'a frappé dans ce premier tour de congrès qui aura lieu, qui va se clore le 15 juin, c'est les signaux faibles que ça renvoie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que d'abord que la compétition passe largement au-dessus de la tête des Français, qu'elle a du mal aussi à passionner en interne, parce que quand j'ai découvert le nombre de votants, 24 700 pour un parti qui a fait jusqu'à 200 000 adhérents sous Mitterrand, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis on a beaucoup de mal à voir quels sont les enjeux clairement posés. On a compris que certains veulent plutôt une candidature de la gauche, mais sous quel périmètre et qui portera cette candidature. D'autres qui disent qu'il faut une réaffirmation de l'identité socialiste, mais c'est quoi aujourd'hui l'identité socialiste. On voit bien que ce parti qui a quand même dominé pendant longtemps la gauche sous la Ve République est très coincé toujours entre Mélenchon et entre le macronisme, qu'il a du mal à définir sa doctrine et que du coup il a peur d'engager des débats très très clivants. Il se rassemble mais sur une assiette qui est quand même très très faible. Et donc oui, c'est dans la recomposition à venir, il y a un enjeu à mon avis pour ce parti qui reste quand même très implanté localement mais qui nationalement peut être menacé d'une marginalisation.
Et moi je précise que pour éclairer Françoise,
Nathalie
et tous les gens qui sont au Parti Socialiste, nous n'arrêtons pas de proposer un débat sur France Info TV, que ce soit avant le premier tour, maintenant c'est trop tard, maintenant un face-à-face Nicolas Meyer-Rossignol et Olivier Faure. Nicolas Meyer-Rossignol est d'accord, nous n'avons pas de réponse d'Olivier Faure, et en l'occurrence, ça n'est pas la Maxime qui ne dit mot consent, c'est qui ne dit mot refuse. Et là, il fallait falloir se presser parce que c'est le 5 juin le vote.
Bon, ben là, vous avez clarifié la situation, merci Nathalie.
Et Françoise.
Le regard que vous portez sur ce congrès du PS, est-ce que vous l'observez d'abord et avec qui le gouvernement pourrait travailler le mieux, Olivier Faure ou Nicolas Meyer-Rossignol?
Alors, vous savez, le gouvernement, enfin, c'est pas le gouvernement, moi j'incarne le bloc central. Et le bloc central, sa force, c'est justement d'être dans un dépassement politique, dépassement de la droite, dépassement de la gauche. Et c'est d'avoir su, et moi j'en suis un exemple frappant, attirer des gens qui ont cette sensibilité de gauche, mais pour porter un programme de modernité. Et tant que le Parti Socialiste n'est pas en capacité de proposer une plateforme où il sort d'un certain nombre d'idées reçues, de totems et de tabous qui les bloquent dans les années 80-90, eh ben, ils n'y arriveront pas. Et au fond, c'est aujourd'hui nous qui sommes capables d'attirer cette gauche responsable, cette gauche de gouvernement.
Allez, on termine avec vous, Nathalie Saint-Cricq. Sacré passe d'armes cette semaine, peut-être le début d'une vraie concurrence, on va voir, d'une vraie bataille entre Marine Le Pen donc et Jordan Bardella. Retour d'abord en images, bien sûr, et en son également.
Je ne suis pas sûre que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie.
Je ne rentrerai pas dans le concours de la petite phrase qui consiste à commenter, surinterpréter ce qui est dit de part et d'autre. Mais je vous rassure, je connais très bien les dossiers ultramarins et notamment le dossier de la Calédonie française.
C'est sévère.
Bon, ça pourrait prêter à rire, On pourrait penser
vous
que
avez rigolé
mère.
D'ailleurs toutes les deux, je vous
oui,
ai
absolument.
Dit.
Je n'arrête pas de la regarder, enfin pas toute la journée, mais je trouve ça toujours très drôle. On pourrait voir une mère qui dit à son fils, oui, bon, écoute, il est bien gentil celui-là, mais qu'il attend de son tour. Et le fils qui se rebelle en disant à sa mère, bah écoute, t'es sympa, mais j'ai bossé. En fait, qu'il y ait des tensions entre deux êtres humains qui sont candidats virtuellement à un moment donné ou à un autre à la présidentielle, c'est assez humain. Mais ce qui est plus intéressant dans cet affrontement à distance là et qui probablement se multipliera, c'est qu'on nous avait vendu une belle histoire d'un couple qui était complémentaire, elle la présidentielle, lui Matignon, puis face à ses déboires judiciaires, elle peut-être la présidentielle, lui se chauffant en coulisses, mais qu'en fait ça signifie quand même qu'il y a deux lignes au Rassemblement national, la ligne de Marine Le Pen qui est relativement souverainiste, qui se veut sociale, une droite sociale, et une autre ligne, celle de Jordan Bardella, qui se rapproche de plus en plus d'une droite très extrême, mais d'une droite qui serait compatible avec Laurent Wauquiez, avec un certain nombre de personnes. Donc on peut avoir l'impression que finalement Marine Le Pen est la dernière de s'aligner, celle qui descend de son père, et que lui est le premier d'une nouvelle que l'on verra peut-être gouverner dans le futur avec la droite dite classique.
Qui sera le plus difficile à battre, Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Agnès Pannier-Runacher?
En fait, je pense que surtout ce que montre et ce que dit votre commentaire, c'est que le RN, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire qu'il séduit à la fois une droite effectivement sociale, et moi c'est celle que j'ai sur mon territoire. Moi je suis élue du Pas-de-Calais, je rappelle que dans le Pas-de-Calais vous avez 10 députés RN sur 12, et les électeurs du Pas-de-Calais qui soutiennent le RN proviennent pour une très large partie du Parti communiste et de la gauche.
Donc le plus dangereux, c'est Marine Le Pen, ou c'est
et ceux-là ne se reconnaîtront pas dans ce que porte plutôt Jordan Bardella, qui est un RN, je dirais plutôt du Sud, qui est beaucoup plus libéral, en tout cas pro-entreprise, beaucoup moins social. Et au fond, cet écran de fumée témoigne de l'absence radicale d'idées, c'est-à-dire le RN est radical, mais il manque radicalement d'idées et surtout de colonne vertébrale. Et il y aura évidemment des trahisons, et moi je pense que la trahison, elle sera contre les classes populaires aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, le Bloc central a vocation effectivement à se battre contre cette grande internationale réactionnaire qui prend aussi appui sur ce qui se passe dans d'autres pays.
Allez, un dernier mot sur la nuit qu'on vient de placer. Je rajoute une image de la semaine, je le fais jamais, mais là quand même c'est obligatoire. Après la victoire du PSG, on a deux personnes qui sont mortes, on a un policier qui est en coma artificiel, qui a été grièvement blessé, on a 559 interpellations, voilà ce qui s'est passé cette nuit. Est-ce que c'est ça la grande fête du sport en France aujourd'hui?
Ben non, évidemment. Je veux dire, c'est
un peu si quand même.
C'est terrifiant, c'est-à-dire que vous avez effectivement une fête qui se veut populaire et qui l'a été. Moi, j'ai vu le match dans un bar et tout s'est merveilleusement bien passé avec des enfants, avec des familles, avec une liesse générale. Et à côté, on assiste à des événements qui sont insupportables.
Mais qu'est-ce qu'il doit dire Emmanuel Macron qui les reçoit cet après-midi, les joueurs du PSG? Est-ce qu'il doit avoir un mot particulier, pas à destination des joueurs, mais plus globalement de la France?
Mais je crois que évidemment, et cela a déjà été dit, on est collectivement très choqués par ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées et ailleurs. Ces personnes qui décèdent alors qu'ils étaient là pour fêter une victoire. Redire que la violence est inacceptable dans notre société, et qu'il faut ne pas avoir la main qui tremble. Et en même temps, je dirais qu'on peut attendre aussi des joueurs de dire leur propre... leur propre refus de voir leur victoire ternie par ces événements qui sont inacceptables.
Évidemment, tout le monde est pour améliorer la qualité de l'air. Après, la question, c'est comment on le fait. Et je pense, nous pensons, que ça ne peut pas se faire au prix de l'exclusion sociale d'une partie de la population. On ne peut pas dire qu'une partie de la population, parce qu'elle n'a pas les moyens d'acquérir un véhicule propre, ne pourra plus rentrer dans les plus grandes métropoles. On ne peut pas dire que certains seront confinés dans leurs zones rurales et ne pourront plus venir dans nos plus grandes métropoles, notamment la capitale de notre pays, parce qu'il faut bien se rendre compte de la symbolique. C'est-à-dire que la capitale de notre pays, Paris, ne sera plus accessible en véhicule par un certain nombre de citoyens.
C'était le député du Parti Les Républicains, Yann Boucard, mercredi soir à l'Assemblée nationale. 98 parlementaires contre 51 ont voté pour la suppression des ZFE, ces zones à faible émission, imaginées en 2019 sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron pour améliorer la qualité de l'air dans les grandes villes. Certains véhicules avaient donc été progressivement écartés des centres. Le nombre de ces ZFE avait été élargi en 2021. On en compte aujourd'hui près d'une trentaine. Sauf qu'à 2 ans de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, elles viennent donc d'être supprimées par nos députés. Agnès Pannier-Runacher, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bloc central, qui soutient normalement le gouvernement, vous a lâché?
Ah mais le bloc central nous a pas lâché, pardon.
Tout le monde n'a pas voté.
Ah ben, l'essentiel des députés d'Ensemble pour la République, du Modem et d'Horizon ont voté contre la suppression des zones à faible émission. Et le gouvernement avait une position très claire sur le sujet. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai honte. J'ai honte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. J'ai honte, moi je viens de la société civile, et j'ai honte de faire ce métier de responsable politique où j'ai été confrontée, j'ai malheureusement pas pu assister à l'ensemble du débat parce que je devais partir en Chine.
D'où vous revenez.
Mais j'ai honte de ce qui s'est passé parce que à aucun moment, le sujet qui est au cœur de ce dispositif, qui est la question de la qualité de l'air, qui est la question de protéger les Français contre des décès précoces. 48 000, s'il vous plaît.
Oui, mais là, ce qu'il dit, Yann Boucard, c'est très bien, mais ça coûte trop cher aux gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas racheter le véhicule qu'il faut pour pouvoir rentrer dans les centres-villes.
Alors d'abord, Yann Boucard ment, parce que évidemment qu'on peut rentrer dans les centres-villes lorsqu'on a la voiture sur laquelle pèsent des restrictions de circulation d'où qu'on vient, lorsque c'est un déplacement qui est ponctuel. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais
parce que ponctuel,
c'est-à-dire que si on doit le faire tous les jours, ce n'est pas possible.
Tout le monde n'est pas rentré comme vous, alors, autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a eu certes une fronde d'un certain nombre de députés.
C'est une alliance de circonstances, pour le dire très simplement.
C'est une alliance de circonstances
entre le Rassemblement National, les LR et les
LFI.
Mais les LR normalement font partie en ce moment du gouvernement.
L'écologie. C'est une alliance de circonstances. On est dans une situation où, là encore, le cynisme, le dispute au déni et je dirais à la lâcheté. Pourquoi LFI votent contre les zones à faible émission? Parce qu'ils ont beaucoup de députés dans des zones à faible émission. Et à quel moment les députés, ce que nous avons fait, hein, Jean-Luc Fugit, nous sommes battus sur ce dispositif pour dire comment on l'améliore, comment on peut revoir les aides, etc. Ce d'autant qu'il y a des aides massives. Là aussi, on ment en français.
Sur quoi, Monsieur Boucard?
Non mais attendez, avant ça même, enfin je veux dire, si on met les députés RN, les députés LR, les députés LFI tous ensemble, on n'arrive pas à la majorité absolue. Donc il y a quand même manqué des voix.
Non, mais parce que vous savez comme moi que...
Il manquait du monde au banc.
Il manquait du monde dans l'hémicycle, mais comme cela arrive assez régulièrement au sens où on se relaie au sein de l'hémicycle. Moi, je ne veux pas que les Français pensent que les gens font rien à l'Assemblée nationale. Ils sont souvent dans différents débats, ils sont dans leur circonscription. Moi, j'ai dû quitter précipitamment la commission des finances où j'étais auditionnée pour venir en hémicycle à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, vous n'avez pas 577 députés en permanence en hémicycle. Mais ça, c'est comme ça qu'est organisé le travail de député. Je pense que ce n'est pas un bon argument. Le vrai argument, c'est qui vote ensemble. Et ce qui se passe, c'est que LFI vote avec le RN et vote avec les Républicains sur un sujet où ils font de la démagogie. C'est-à-dire qu'ils caressent dans le sens du poil les personnes en situation modeste à qui on est allé raconter que parce qu'ils avaient une vieille voiture, ils ne pourraient plus aller dans aucune grande agglomération.
Et
ceci est absolument faux. Mm-hmm. Absolument faux.
C'est-à-dire, alors comment ça se passe?
C'est-à-dire, mais vous le savez comme moi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un droit à circuler quand on vient ponctuellement. C'est-à-dire que quand on a un rendez-vous de médecin, bien sûr qu'on peut venir faire son rendez-vous de médecin. C'est-à-dire que il y a aussi la possibilité, par exemple, sur la seule zone qui a des restrictions, les deux seules zones qui ont des restrictions pour les voitures critères 3, c'est l'agglomération de Paris et c'est l'agglomération de Lyon. L'agglomération de Paris, vous, libre circulation les week-ends, libre circulation avant 8 heures, libre circulation après 20 heures. Donc vous avez énormément de mécanismes qui ont été pensés et prévus pour accompagner, parce qu'on n'est pas idiots, parce que effectivement, le droit à respirer un air pur doit être concilié avec le droit à la mobilité, le droit à aller travailler, le droit à aller se soigner. Qu'on puisse ensuite dire ce mécanisme, il est confus, il n'est pas clair, les aides ne sont pas assez importantes, la population doit être mieux informée. Moi, je l'entends. Et on y travaille. J'avais d'ailleurs...
Non, mais il y a un problème d'information, non? Parce que, comme je disais, c'est un dispositif qui existe depuis 2019. On a l'impression qu'on le redécouvre là.
Mais parce que, au plan politique, cela a été relayé et des fausses informations ont été continuellement relayées. Il y a certaines personnes, certains responsables qui sont allés relayer des informations selon lesquelles on allait interdire les critères 2, voire les critères 1. Certaines personnes qui ont fait des pseudo-enquêtes d'opinion en interrogeant les Français pour leur demander si ils étaient d'accord avec le fait qu'il n'y ait que des voitures électriques en 2028 dans les grandes villes. Évidemment qu'à aucun moment, cette perspective n'a traversé l'esprit de personne.
C'est irrationnel, Nathalie. Puisque vous avez l'air de dire que c'est irrationnel et que la communication...
Non, c'est pas irrationnel. C'est pas du tout irrationnel. C'est parfaitement assumé. C'est cynique. C'est électoraliste. C'est-à-dire qu'en gros, on s'en fout de la pollution de l'air, on s'en fiche de savoir quelles sont les maladies qui en résultent. Le fait que ce soit les plus vulnérables qui sont les premiers frappés par ces infarctus, ces maladies vasculaires cérébrales, ces asthmes chez les enfants, c'est des cohortes de 30 000 gamins chaque année. C'est vraiment indécent.
Mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Donc, il y a un moment donné aussi, ce genre de choses est véhiculé par un certain nombre de députés. Il faut que vous soyez plus massif dans la façon d'affirmer les choses. Et ma véritable question était de vous dire, est-ce que de toute façon, en ce moment, tous ces sujets-là ne sont pas absolument éruptifs? Quand on voit M. Jardin dire les gueux, comme si c'était un Alexandre Jardin, un combat entre les pauvres gens qui n'ont pas le droit de respirer l'air de Paris qui est réservé aux bobos, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été assez, ou alors si vous n'avez pas assez cogné, ça veut dire que vous ne pourrez jamais rien faire?
Pour prolonger cette question, est-ce qu'il est encore possible de convaincre les Français
sur ces sujets-là,
sur la matière écologique?
D'abord, je pense qu'il faut aussi, tempérer ou en tout cas regarder ce qui sortira réellement à la fin de ce texte.
Françoise,
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un aménagement? Est-ce que vous pouvez proposer une solution de compromis? Est-ce qu'il peut y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel? Parce que visiblement, il y a peut-être l'hypothèse que c'est un cavalier budgétaire dans le cadre... Quelle va être votre position à vous?
Alors, moi je suis ministre, je ne suis pas députée. D'accord. Donc, il est assez probable qu'il y aura un recours du Conseil, vers le Conseil constitutionnel sur l'ensemble du texte, si on entend ce qui se dit. Je suis pas juriste, je ne sais pas ce que le Conseil constitutionnel tranchera. Il y a une chose qui me paraît dangereuse aujourd'hui, c'est qu'on attend que le Conseil constitutionnel fasse le travail des députés. Oui. C'est-à-dire qu'on
c'est
vote.
C'est pas la première fois. Hein,
c'est pas la première fois. C'est-à-dire que vous avez des députés qui votent des bouts de loi, qui votent des articles. Donc ils savent pertinemment soit qu'ils n'ont rien à voir avec le texte, soit qu'ils sont tout à fait non constitutionnels. Et qui ensuite se répandent sur les plateaux télévision en disant le Conseil constitutionnel a invalidé cet élément-là, c'est de la justice politique. Non, il y a une constitution, ce sont des députés, ce sont des parlementaires, si la constitution leur plaît pas, ils ont le droit de la changer. Simplement, il faut avoir une majorité qualifiée.
Mais en tout
et
cas...
ils ne l'ont pas. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des députés qui font de la communication, qui font de la démagogie et qui n'agissent pas sur les sujets de fond. Comment sortira le texte in fine? Je ne sais pas, parce que on a vu tellement de soubresauts ces dernières semaines sur des pattes d'œufs où on mettait un amendement, puis il était invalidé, puis en commission mixte paritaire, qui est cet endroit où le Sénat et les députés, sept sénateurs, finalisent le texte, qu'il peut se passer encore des choses. Mais moi, je veux juste redire deux choses. La pollution de l'air et les maladies qui vont avec, ce n'est pas un sujet accessoire. C'est un sujet de politique de santé publique majeur. Et la deuxième chose, c'est que les élus locaux qui ont mis en place ces zones à faible émission, parce que ce sont les élus locaux qui les ont mis en place, les trois quarts d'entre eux sont furieux contre ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale.
Oui, mais en fait,
comme ils sont furieux de ce qui se passe sur le zéro artificialisation net. Parce que la réalité, c'est que sur le terrain, quand vous êtes maire...
Qui a failli être supprimé aussi.
Tout à fait. Mais, ou qui a été quand même assez attaqué. quand vous êtes maire sur le terrain, que vous avez pris vos responsabilités, que vous êtes interpellé par votre population, parce que précisément la qualité de l'air, c'est un enjeu. Et en plus, cette politique, elle fonctionne. La qualité de l'air a été améliorée de 40% à Londres,
qui a mis en place une zone à faible émission. Les élus locaux, là, je suis en train de penser plus au sud de la France, le tronçon d'autoroute, la 69, entre Castres et Toulouse, là, par contre, la qualité de l'air, c'est plus leur souci, ils sont d'accord avec cette A69,
mais pardon,
dont les travaux ont repris cette semaine.
Non, ça n'a rien à voir.
Ah bon ?
Catherine Bécart, ça n'a rien à voir. La 69, c'est un sujet d'aménagement du territoire.
Donc vous êtes favorable à ce projet-là ?
Mais bien sûr que je suis favorable à ça. Si vous voulez, l'écologie, c'est pas blanc ou noir. Ce qu'on essaye de nous faire croire, et c'est d'ailleurs les écologistes qui nous ont poussés dans cette approche, c'est que tout est blanc et noir. Ben non, c'est pas blanc et noir. C'est une question de rapport bénéfice-risque. La 69...
C'est bitumé le territoire.
C'est le dernier endroit de France qui a cette importance, cette densité de population où il n'y a pas d'autoroute. Pourquoi les gens qui habitent à Castres ne seraient pas traités à égalité avec les gens qui habitent en Bretagne, les gens qui habitent à Vannes, les gens qui habitent à Douai, les gens qui habitent à Saint-Chamond? Pourquoi? Pour quelles raisons? Et on a l'air de dire que la 69, on ne fait rien d'un point de vue écologique. Mais pardon, nous avons le droit de l'environnement parmi les plus exigeants au monde. Lorsque vous avez 20 hectares de zones humides qui sont touchées par ce projet de la 69, on en remet 50 hectares en compensation. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est insupportable d'entendre qu'on fait n'importe quoi. Et effectivement, là, c'est un sujet de démocratie. Parce que vous avez des gens qui disent « ce projet n'est pas d'importance publique majeure ». Mais qui sont-ils pour le dire,
Nathalie?
Alors que la population a voté pour, les élus du territoire, qui sont quand même démocratiquement élus, le soutiennent.
Mais je me dis juste, on vous entend pas suffisamment, parce que tous ces arguments, on ne les entend pas, et on vous trouve, ben moi, je vous trouve pas très soutenu par votre Premier ministre, François Bayrou.
Alors d'abord,
ces arguments,
le président, je les tiens avec force à chaque fois que je suis sur un plateau, et j'ai au moins une qualité, c'est la constance et la cohérence de mes positions. Et deux, je le redis, le gouvernement, c'est lui qui a déposé l'amendement sur de rétablissement des zones à faible émission. Le gouvernement, sur ça, était parfaitement clair. Il l'a parfaitement défendu. Et d'ailleurs, c'était Marc Ferracci qui était au banc et qui l'a porté. Donc, on ne peut pas dire non plus n'importe quoi du gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est un sujet qui concerne et les filles. Et j'espère qu'ils se regardent en ce moment dans leur glace par rapport à la question de la qualité de l'air, parce que ce sont les territoires où ils sont députés.
Et l'air
ou celui-ci
aussi, me semble-t-il, qui appartient au Bloc central.
Non, quand vous dites ça,
non,
est-ce que les écologistes...
Et l'air n'appartient pas au Bloc central.
Enfin, pas au Bloc central, pardonnez-moi,
mais
au gouvernement.
Non, c'est quand même très important.
Oui, vous avez raison.
Et l'air est dans une alliance avec le Bloc central.
Tout à fait.
Mais moi, il y a beaucoup de sujets, et vous l'entendez dans mes propos, où je ne suis pas d'accord avec LR.
On vous sent en colère. Et quand vous entendez quand même le ministre des Transports se réjouir de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en disant, ça y est, on a obtenu gain de cause, est-ce que ça vous fait pas enrager? Est-ce que ça vous pose pas votre souci?
C'est pas exactement ce que dit Philippe Tabarot. Il dit ce dispositif, et c'était quand même le sens de l'amendement du gouvernement, était très complexe et c'était pas le meilleur, en tout cas il n'était pas bien compris des Français. Mais Philippe Tabarot porte une ligne politique qui est d'ailleurs qui est cohérente avec les Républicains. Moi je porte une ligne politique qui est cohérente avec le Bloc central. C'est aussi simple que cela.
Vous avez à la fois un certain nombre d'écologistes qui sont radicaux, ceux qui se grimpent dans les arbres pour pas empêcher l'autoroute de progresser. Donc on peut se dire qu'on pourrait plutôt discuter avec eux pour éviter qu'il y ait 450 000 recours. Et à côté de ça, j'ai entendu M. Tabarot l'autre soir sur BFM, pour ne pas la citer, dire on va pas quand même interrompre la possibilité pour des gens de travailler pour 3,5 grenouilles, pour une famille de grenouilles qu'on risque d'expatrier ou d'exproprier en conduisant l'autoroute.
Il vous défend bizarrement.
Est-ce que c'est pas de la politique, c'est pas que de la politique l'écologie? Vous voyez ce que est-ce que le cap du gouvernement de François Bayrou, d'Emmanuel Macron, est suffisamment clair pour que vous vous y retrouviez? C'est pas uniquement une histoire de grenouille.
Précisément, je vous le redis, et c'est pas une histoire de grenouille. Le gouvernement, dans toutes les positions qu'il a portées sur ces différents textes, a porté une position qui était à la fois de pragmatisme, c'est-à-dire que l'écologie, ça doit pas être la bureaucratie, parce que, attention aussi, on a parfois tendance à verser là-dedans, mais d'ambition écologique. Le bilan écologique du président de la République, il y a aucun président de la Ve République qui peuvent revendiquer un bilan aussi positif.
On va faire une pause là, non ?
Non mais attendez. Non mais c'est intéressant. L'ambition.
20% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 7 ans. Mm. Je veux dire, on a fait 15% en 27 ans, on fait 20% en 7 ans.
Non mais vous avez parlé
de l'amélioration de la qualité de l'air, c'est quand même sous le président Macron que ça s'est fait.
On a de l'ambition.
Quand on dit qu'il y a 30% d'amélioration de la qualité de l'air dans les plus grandes villes, c'est pas l'épaisseur du trait qui s'est passé. Donc moi je n'accepte pas qu'effectivement on nous renvoie à nous bloc central alors qu'on tient la ligne. Le fait qu'il y a effectivement une désinhibition sur le sujet de l'écologie, qu'effectivement le RN utilise ça comme monnaie électorale avec une, enfin de manière très crasse et très irresponsable, et sans doute les Français les interpelleront dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura le bilan de ces positions de repli. Parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe. L'écologie, encore une fois, c'est protéger les Français. Et les Français, ils attendent de leurs responsables politiques qu'ils aient le courage de les protéger.
Mais Agnès...
Et parfois de prendre des décisions qui ne sont pas ultra populaires.
Mais Agnès Pannier-Runacher, est-ce que vous avez les moyens de votre politique, de votre ambition écologique ? Quel sera, par exemple, le budget que vous aurez l'année prochaine ? Puisque François Bayrou ne cesse de dire qu'il est déjà en train de préparer son budget pour 2026.
Sur vous quoi vous vous battez vous aurez, alors qu'on voilà. cherche 40 milliards alors, d'euros d'économie ?
Vous allez avoir quel budget ? D'abord, quel la conversation qu'on a eue, que ce soit sur le zéro artificialisation net, que ce soit sur les zones à faible émission, montre que ce n'est pas des questions de budget. Donc, la norme, l'accompagnement, la transformation, ce sont des armes de l'écologie aussi, en tout cas de l'amélioration.
ZFE, c'était quand même aider la protection. Les Français à acheter des voitures plus propres et donc c'était cher.
Oui, mais on n'était pas tout seul. La métropole du Grand Paris offrait 5000 euros pour l'achat d'une voiture d'occasion. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la région a arrêté cette aide.
Mais donc quel budget l'année prochaine ?
Donc sur le budget, oui, on a les moyens de nos ambitions. Pour une raison assez simple, je voudrais juste remettre les chiffres en perspective. Le budget de l'écologie, il a doublé entre 2017 et 2025. Il a doublé. Donc, je ne connais pas beaucoup de politiques qui peuvent revendiquer d'avoir...
25-29, parce que visiblement, il y a un plan pour l'année prochaine, et puis un plan de réduction de la dette jusqu'en 2029. Sur quoi vous vous battez sur les prochaines années pour dire, voilà, on n'a pas renoncé à notre ambition écologique ?
Alors, moi, je me bats pour que les dépenses écologiques aillent directement aux projets qui ont le plus d'impact. Et surtout, je me bats pour qu'on arrête de financer ce qu'on appelle des niches brunes, c'est-à-dire des dépenses anti-écologiques. Parce que cet argent-là, c'est des économies. Cet argent-là, lorsqu'on fait des soutiens,
des niches brunes.
Des soutiens aux énergies fossiles, c'est une dépense du budget de l'État, et ça ne sert pas le combat de l'écologie. Je vous donne un exemple. En France, on taxe deux fois plus l'électricité. L'électricité, c'est fabriqué en France, avec des emplois français, des entreprises françaises, et c'est décarboné à 95%. Et on la taxe deux fois plus que le gaz qui est importé des États-Unis, de la Russie, d'Algérie, comme ça, au hasard, qui, certes, porte des emplois en France, mais en moins grand nombre que toutes nos productions électriques, et qui est carboné. Ça n'a pas de sens. Ben voilà, je vous ai trouvé une économie.
Allez, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques. J'aimerais qu'on parle à présent, parce qu'il est déjà tard, des océans. C'est important. La France accueille cette année, dans la ville de Nice, la troisième conférence des Nations Unies consacrée aux océans, la France et le Costa Rica, à partir du week-end prochain. Les mots d'abord de la militante écologiste Claire Nouvian, directrice de l'association Bloom. Sur France Inter, c'était le 10 mars dernier.
Face à la catastrophe climatique, une urgence impérieuse, protéger les écosystèmes naturels et cesser de détruire l'océan. Nous sommes 100% dépendants de l'océan. C'est lui qui régule le climat, la température, le cycle de l'eau. S'il est trop chaud ou trop acide, rideau de fin pour le vivant sur Terre. C'est aussi simple que cela. Mais notre président ne l'a toujours pas compris.
Alors, il a toujours rien compris, le président, en matière d'océan, Agnès Pannier-Runacher.
Alors, je partage tout le début du propos, c'est-à-dire qu'elle pose très bien le décor. Et je rajouterai que l'océan, c'est aussi 50% de notre oxygène, si on a un doute sur son caractère essentiel. En revanche, je le redis, la France va faire des annonces importantes à l'UNOC.
Lesquelles ?
Elles seront faites à l'UNOC, elles seront faites au moment de la conférence des Nations Unies sur les océans. Mais il y a une chose que je peux vous dire très simplement.
Allez-y.
Le président de la République s'est engagé, il y a 3 ans, à protéger à hauteur de 10% les mers territoriales qui sont sous la juridiction française. Et ça, de manière forte.
C'est 30% qui est normalement demandé.
30% et 10% de manière forte, protection forte. Nous le ferons Et les annonces montreront que cette trajectoire d'ici 2030 sera tenue.
Mais 10%, juste... ça paraît tout petit quand même, hein, c'est juste ça, non ?
10%, il n'y a pas un pays au monde qui protège de manière forte à 10% ses eaux maritimes. Et nous les protégeons déjà. Vous savez que c'est l'objectif qui a été donné par la Convention de Montréal, Biodiversité, à plus de 30% notre domaine maritime.
Et quand vous dites de manière forte, ça veut dire quoi concrètement ?
De manière forte, ça veut dire qu'en fait, dans les aires marines protégées, vous avez des degrés où on met les activités humaines et la réduction de ces activités humaines. Mmh. On concilie activité humaine et protection de la biodiversité. Mmh. Et au niveau, on va dire, d'un parc national marin, c'est une protection forte. On a des gradients de 6 à 1.
D'accord.
Et un parc national, c'est grosso modo un niveau 2. Et là, par exemple, vous n'avez pas le droit d'aller mouiller et d'arracher des posidonies. Vous n'avez pas le droit... La pêche est très réglementée. Certaines pratiques sont interdites. Mm-hmm. La plongée est interdite, etc. Et vous avez une gestion qui est des mesures qui sont prévues de restriction. Et sur des protections qui sont réelles, mais un peu moins fortes, vous conjuguez un peu plus d'activité humaine qui n'est pas nécessairement économique. Hein. Ça peut être du tourisme, ça peut être du nautisme, ça peut être des sports d'eau l'existence d'une aire protégée où vous allez faire en sorte que dans certains endroits,
l'océan,
on contourne. Oui. Voilà. Donc, le président tiendra ses objectifs. Mais je veux dire une chose, parce que ce qui anime Claire Nouvian, c'est le chalutage de fond. Mais je crois qu'en fait...
Expliquez-nous ce que c'est, le chalutage de fond.
Le chalutage de fond, c'est une pratique de pêche qui, avec des gros filets, vont racler le fond des océans. Et donc, nécessairement, lorsque vous avez des fonds marins avec des coralligènes, avec des posidonies, avec des maherles, des têtes de canyon où il y a beaucoup de poissons, des endroits de nurserie pour les poissons, tout ça est emporté avec le chalut, qui est donc ce filet de pêche particulier.
Vous allez prendre des mesures contre
ça ? Dans les eaux hexagonales... Ça n'existe pas dans 50% des eaux hexagonales. Et le chalut de fond, puisque nos eaux hexagonales représentent une petite partie de tout notre territoire maritime, on ne peut pêcher ou on ne pêche au chalut de fond que dans 3% des eaux maritimes françaises. Donc si vous voulez, moi, mon enjeu, je ne sous-estime pas, hein, soyons clairs, on fera des progrès et on protégera notre biodiversité et en particulier les fonds marins. Mais j'attire l'attention sur une chose, c'est qu'il faut prendre de la hauteur sur ces sujets-là. Dans 97% du domaine maritime français, on ne pratique pas le chalutage de fond. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est de dénoncer la pêche illégale, qui est celle qui ravage les fonds marins internationaux, qui est celle qui fait une pression insupportable sur les pêcheurs artisanaux, qui représentent 10 fois la totalité de toute la pêche française.
Mais les Français, ils ne voient pas forcément cette pêche illégale. En revanche, ce qu'ils voient beaucoup dans les mers, les océans, notamment dans la mer Méditerranée, c'est le plastique. Qu'est-ce qui va être fait contre le plastique ? Est-ce que la France se mobilise contre le plastique ?
Non seulement la France se mobilise sur le plastique, parce que nous avons été parmi les premiers à prendre des engagements d'interdiction, par exemple, de l'usage de plastique unique. Mais moi, je porte au niveau international le fait d'avoir une position très ambitieuse sur le traité plastique qui est en négociation au mois d'août. Et nous en parlerons à la conférence des Nations Unies. Je réunis une coalition des ministres de l'Environnement pour soutenir une position ambitieuse lors de cette négociation, mais surtout je réunis tous les ministres de l'Environnement de la Méditerranée pour prendre des engagements.
Alors, mais quel genre d'engagement on peut prendre ?
Les engagements, je vous le redis, si tout le monde interdisait les plastiques à usage unique, vous auriez une diminution importante.
Oui.
Si on interdit l'usage de certaines matières chimiques dans la production plastique, on diminue la pollution de ces plastiques. Si on impose l'éco-conception dès la production du plastique, on a une diminution. Si on se fixe des objectifs de moindre production du plastique, on a une diminution. Et c'est tous ces éléments-là qui, aujourd'hui, sont discutés dans les enceintes internationales et dans les enceintes européennes. Et la France est leader sur ces sujets-là.
En cas pratique, il y a eu la loi Duplomb qui a été quelque peu chahutée cette semaine, et c'est typiquement une avancée française, c'est-à-dire une proposition de la France de supprimer l'acétamipride comme supposé dangereuse, et on a, via cette loi, allégé les contraintes, ou du moins repoussé à plus tard pour s'aligner sur les pays européens. Est-ce qu'on n'est pas, en ce moment, contrairement à tout ce qu'on fait, être obligé de détricoter tout ce qui avait été nos avancées? Et en l'occurrence, ce que je vous demande précisément, parce que moi finalement j'ai rien compris, c'est est-ce que ce truc-là est dangereux? Parce que soit c'est dangereux, faut l'interrompre, soit ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, pourquoi s'exciter?
Alors, mais c'est un néonicotinoïde qui a été interdit il y a 7 ans.
Depuis 7 ans. On dit qu'on n'a pas de substitut, ou alors que les substituts sont plus chers, ou je ne sais pas quoi.
Merci Nathalie.
Bon, parce qu'on entend des rapports qui nous disent le tout et son contraire.
Donc.
Alors, d'abord, je vais vous donner ma position. Moi, je suis contre la réintroduction de cet acétamipride. Et je veux peut-être mettre en perspective, cette loi, elle a été prise il y a 10 ans, sous le gouvernement du président Hollande. Elle interdisait 5 molécules. Nous étions effectivement précurseurs. L'Europe nous a déjà suivis sur 3 molécules qu'elle a interdites.
Pas sur tout.
Justement, elle nous a suivis sur 3 molécules qu'elle a interdites. Mm-hmm. La quatrième, elle en a limité l'emploi, puisque c'est interdite, elle est interdite à l'air libre, elle ne peut être utilisée que sous serre. Et la cinquième, qui est l'acétamipride, reste autorisée, mais fait l'objet de travaux complémentaires. Donc ça, c'est... Et par ailleurs, l'Europe a pris la décision de baisser ce qu'on appelle les limites maximales de résidus, c'est-à-dire qu'elle a mis au minimum les traces que l'on pourrait retrouver de ce produit
tous les résidus,
sur ce qu'on serait amené à manger, des fruits, etc.
Donc c'est principe de précaution ou c'est dangereux ?
Donc, moi je porte cette ligne-là parce que depuis des années où nous avons pris cette interdiction, nous avons développé des alternatives. Elles ne sont pas parfaites. La filière noisette a raison de dire qu'elle n'a pas d'alternative aujourd'hui. Mmh. C'est parfaitement la réalité. Mais réintroduire, repartir en arrière, c'est finalement faire flancher toute la recherche, tous les investissements qu'on a mis pour aller chercher des alternatives. Alors qu'on voit bien que le sens de l'histoire, malheureusement, c'est que une molécule qui est très efficace sur le vivant, puisqu'elle vise à tuer...
Justement, jusqu'à quel vivant ?
Justement, gens, oui. Une molécule qui est très efficace sur le vivant, l'est aussi sur des espèces qui n'étaient pas visées par la molécule. Ensuite, je vais faire une... comment dire, le chlore, vous l'avez dans l'eau potable, c'est pas pour ça que vous buvez le chlore à la bouteille. Donc c'est aussi...
C'est
aussi une question de quantité et d'usage.
Donc c'est un principe de précaution.
C'est aussi une question de quantité et d'usage. C'est pas nécessairement un principe de précaution. Moi, je me fonde sur des études qui disent, attention, on retrouve pas l'acétamipride, mais la métabolite dans les milieux, donc dans l'eau et dans les terres. Et ça peut être un problème lorsqu'on devra dépolluer dans plusieurs années ou pour notre eau potable. Et d'autres disent, et c'est pour ça que si la science était blanche ou noire, ça serait tranché depuis longtemps, disent, mais utiliser avec précaution, ça limite, ça permet à nos agriculteurs de produire et on peut réduire son impact sur les milieux. C'est là où se situe le débat. Et d'ailleurs, précisons une chose, je l'avais dit de manière très claire, la proposition de loi du sénateur Duplomb, telle qu'elle est arrivée sur la table du Sénat, c'était la petite boutique des horreurs. Heureusement, les parlementaires se sont mobilisés et ont réécrit très largement ce texte. Il reste, de mon point de vue, cet irritant sur l'acétamipride. Mais même sur ce point-là, la rédaction est beaucoup plus renfermée, puisqu'elle ne permet d'avoir recours à cette molécule que dans des conditions extrêmement encadrées. Donc attention aussi, là, à pas tomber dans le tout blanc et tout noir. Et c'est, moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est à nouveau les écologistes et LFistes, qui sont décidément des hypocrites de premier
déjà
niveau,
dit, oui, on
qui ont déposé des myriades d'amendements sans queue ni tête, parce que quand vous dites remplacer 30 jours par un mois ou l'inverse, c'est pour bloquer l'exercice du Parlement, c'est pas pour faire avancer le texte, alors même que ce texte avait été étudié en commission, développement durable et affaires économiques, et que des propositions avaient été faites par les députés qui permettaient d'améliorer le texte. Mmh. Et ben ça s'est raté, on n'aura pas ces amendements, ça sera perdant pour les agriculteurs, et ça sera perdant pour l'écologie.
Agnès Pannier-Runacher, il est très tard déjà.
Et en plus, ils ont le culot de déposer une motion de censure sur ça. Enfin, vraiment, n'importe quoi.
On va devoir accueillir notre second invité. Une dernière question qui est politique, qui est personnelle aussi. Est-ce que vous ferez encore de la politique après la fin du quinquennat Macron ?
Mais moi, je pense que le macronisme est plus que jamais vivant. Et je souhaite porter cette vision du macronisme, c'est-à-dire une vision du dépassement, une vision qui est capable de mettre autour d'un projet pro-européen, humaniste, écologique, et j'insiste sur cette dimension.
Donc avec Bruno Retailleau ou pas ?
Et féministe, pardon ?
Avec Bruno Retailleau ou pas ?
Mais Bruno Retailleau, vous l'avez compris, il ne fait pas partie du bloc central. Donc,
alors, c'est
il fera ses propositions.
Leader,
est-ce que je compte à
c'est qui le leader du bloc central ?
Mais moi, juste une chose.
Il n'y a pas de dauphin.
Sur les Républicains, c'est une force d'appoint aujourd'hui. C'est une force d'appoint. D'ailleurs, Éric Ciotti a décidé de faire l'appoint du Rassemblement National. Donc le bloc central est d'accord. Accueillant, évidemment, pour les électeurs de droite et de gauche, ceux qui croient en projet humaniste. Et moi, j'ai la volonté de porter ce projet en 2027.
Oui, sauf que...
Dernière question,
on entend
Françoise.
Quand même qu'il y a des projets de candidature unique, bloc central droite, parce que sinon... voilà, sinon c'est Le Pen ou le Rassemblement National qui gagne. Donc vous dites, ok, on peut s'allier, on peut avoir une candidature.
Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que si le bloc central et tous ceux qui au sein du bloc central auraient la tentation de dire il faut droitiser le bloc central, risquent de se retrouver spectateurs en 2027. Parce que sans l'apport de tous ceux qui portent une vision plutôt social-démocrate, ils perdent une grosse partie des électeurs et des militants. Je suis l'incarnation de ces personnes de sensibilité de gauche social-démocrate qui ont rejoint le président de la République précisément parce qu'ils pensaient que la France, et d'ailleurs les Français appellent ça de leur vœu, avaient besoin d'un projet qui dépassait les clivages qui avaient immobilisé notre pays. Donc rien ne se fait sans envisager évidemment une place importante pour la social-démocratie. Merci. Une gauche de responsabilité, une gauche de gouvernement.
Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher. Un petit mot,
juste
souhaitez,
un hommage.
Absolument.
Professeur Beaulieu, qui s'est éteint il y a 2 jours. Il a été l'inventeur de la pilule abortive. Il s'est battu pendant 20 ans pour pouvoir faire accepter ça au laboratoire. Il a donné le brevet, c'est-à-dire que c'est dans le domaine public. Il n'a pas gagné d'argent là-dessus. Et il a permis à toutes les femmes dans le monde, même celles qui subissent un régime immonde, de pouvoir avoir la liberté de choix et de leur corps et de leur vie. Voilà,
Teniez absolument à le rappeler.
Et je me joins à vos louanges. Parce que dans ces moments de fragilité aussi sur les droits des femmes, et on l'a vu, le Rassemblement National n'était pas nombreux à voter pour l'IVG dans la Constitution.
Exactement. Allez, on se dépêche, il est temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécart.
Merci pour votre patience d'abord et bonjour Xavier Driancourt.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de questions politiques. Vous êtes un grand spécialiste des relations franco-algériennes et pour cause, à 2 reprises, vous avez été ambassadeur de France en Algérie et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce pays que vous connaissez donc très bien, dont le tout dernier qui vient de sortir, France-Algérie, le double aveuglement paru aux éditions de l'Observatoire. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de Boualem Sansal, à qui d'ailleurs vous dédiez votre livre? Il y a une dédicace au tout début. Il attend son procès en appel qui devait avoir lieu en mai, qui a été repoussé à la fin du mois de juin. Oui. Est-ce que vous savez comment il va? Est-ce que vous avez...
Non, aucune nouvelle. Je suis le dernier à l'avoir vu, voilà. Puisque nous avions dîné ensemble. Et depuis son arrestation, nous n'avons pas de nouvelles.
Et est-ce que les autorités françaises ont véritablement sur ce dossier les moyens d'agir?
Ben oui, mais ça, il faut poser la question, je pense, à Madame la Ministre. Je ne suis pas les autorités françaises. Donc, il se trouve que je connais bien Boualem Sansal, que je l'ai connu au cours de mes 2 séjours, que je suis le dernier à l'avoir vu en France et que, voilà, j'ai suivi avec le comité de soutien Arnaud Benedetti, Noël Lenoir et d'autres, Jean-Michel Blanquer, les activités concernant Boualem Sansal, mais nous n'avons pas d'informations particulières.
Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Entrons dans ces relations complexes, tendues, entre la France et l'Algérie en ce moment. Dans votre livre, Le double aveuglement, vous rappelez ce qu'on a à peu près tous oublié. Vous rappelez que les Algériens qui ont dirigé le pays juste après 1962 ne sont pas ceux qui ont négocié, en fait, l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi est-ce que c'est si important de rappeler ça? Qu'est-ce que ça change?
C'est très important parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas en France. Qu'en juillet 62, il y a eu un coup d'État en Algérie et que les signataires des accords d'Évian de mars 1962 ont été écartés, balayés, assassinés pour certains d'entre eux. Et donc, à partir de juillet 1962, la France a eu comme interlocuteurs des gens qui étaient contre les accords d'Évian.
Mais aujourd'hui, ce qu'on a envie de comprendre, 63 ans plus tard, c'est la relation entre M. Tebboune, le président algérien, et notre président français, Emmanuel Macron. C'est quoi ces relations? Pourquoi elles fonctionnent aussi mal? Qu'est-ce qui se passe?
Ce que je veux expliquer dans ce livre, c'est qu'en fait, la complexité de la relation franco-algérienne, elle ne date pas d'il y a 8 ans. Elle date de 1962, pour la raison que nous venons d'évoquer, et parce que la France a toujours été dans une relation que je qualifie de bienveillance spontanée vis-à-vis de l'Algérie, une sorte d'autocensure vis-à-vis du pouvoir algérien, parce que c'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Donc nous avons toujours été dans cette relation compliquée avec le pouvoir algérien.
C'est-à-dire que vous êtes dans la volonté, dans le souhait, en tout cas, dans les mots, d'être beaucoup plus ferme avec les autorités algériennes. Ben, vous êtes sur la ligne Retailleau, en fait, si on résume.
Il se trouve que j'ai passé...
Que vous conseillez, d'ailleurs.
Presque 8 ans comme ambassadeur en Algérie, donc je connais bien les Algériens, le pouvoir algérien, la subtilité de ce régime et leur façon d'agir. Donc je pense que nous nous y sommes mal pris depuis très longtemps, pas seulement depuis 8 ans, mais depuis très longtemps, nous avons manqué de fermeté vis-à-vis d'Alger.
Ça s'attrape ou pas?
Pardon?
Ça se rattrape, Nathalie?
Ça peut se rattraper, mais d'une certaine façon, il est très tard pour rattraper, parce que on les a habitués pendant 60 ans, 63 ans, à une certaine bienveillance, encore une fois. Et donc, ils se disent, on peut tirer sur la corde, elle ne cassera pas.
C'est un sujet de politique intérieure aussi, c'est-à-dire...
Et c'est un sujet de politique intérieure, donc le pouvoir algérien joue aussi là-dessus.
Mais on a le sentiment quand même que Bruno Retailleau met plus de l'huile sur le feu qu'il ne règle véritablement les problèmes.
Non, je dirais pas cela. Je crois qu'il y a différentes sensibilités au sein du gouvernement et que, effectivement, Monsieur Retailleau est arrivé au gouvernement avec sa propre ligne politique et il y a à côté de lui d'autres ministres qui ont une vision un peu différente. Donc, voilà.
Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent ce que c'est que ces fameux accords de 1968? Une partie de la classe politique, oui. Bruno Retailleau, encore une fois pour ne pas le citer, Gérald Darmanin également, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, tout le monde dit...
Gabriel Attal,
la solution, c'est de revenir, voire de supprimer ces accords de 68.
Non,
il y a quoi dedans et ça va changer quoi de faire ça?
Non, ce n'est pas la solution, mais c'est un élément important du dossier, c'est-à-dire que ces accords du 27 décembre 68, et effectivement j'ai rédigé une note pour la Fondapol sur ces accords font suite aux accords d'Évian qui prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie parce que, encore une fois, au moment de la négociation des accords d'Évian, du côté français, nous pensions, Louis Jox, qui était ministre, pensait que les pieds noirs resteraient en Algérie. Et donc, il fallait qu'ils puissent circuler entre la France et l'Algérie. En juillet 62, il y a eu les événements dont nous avons parlé, les pieds noirs sont rentrés en France et la liberté de circulation a joué uniquement au profit des Algériens avec des quotas qui étaient fixés annuellement. Et c'est en 68 qu'on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça et on a négocié des accords qui, d'une part, supprimaient la liberté de circulation prévue à Évian et d'autre part, accordaient un certain nombre d'avantages aux Algériens par rapport à d'autres nationalités.
Mais c'est des avantages réels, importants.
Ce sont des avantages réels et qui existent encore aujourd'hui.
Lesquels?
Parce
qu'on a quand même le sentiment que si c'était si avantageux.
En matière de création d'entreprises, en matière de statut des étudiants, il y a toute une série d'avantages. Il y en a une trentaine à peu près que j'ai relevés et qui sont nombreux.
Mais si c'était si avantageux, il y aurait encore plus d'Algériens aujourd'hui en France. Ils ne sont pas
non,
si nombreux, ils sont,
non, ils sont
6 millions.
Ce sont des avantages qui existent, qui ne sont pas si avantageux que ça, qui sont avantageux par rapport au droit commun, mais qui sont moins avantageux que ce qu'il y avait dans les accords d'Évian.
Mmh. Agnès Pannier-Runacher, un dernier mot, pardonnez-moi Nathalie. Il vous met mal à l'aise, Bruno Retailleau, au sein du gouvernement, dans les mots qu'il peut utiliser vis-à-vis de l'État algérien?
En fait, je crois que le président de la République n'a pas attendu Bruno Retailleau pour évoquer la question de l'accord de 1968, puisqu'il y a même une déclaration qui a été signée entre le gouvernement algérien et le gouvernement français pour revenir, pour rediscuter le contenu de cet accord, et ça date de 2022. Après, la diplomatie, les affaires étrangères, ce sont des discussions où on peut être très ferme. On n'a pas besoin forcément de prendre le micro pour... Être très ferme, c'est pas forcément l'être au micro. Et parfois même, c'est contre-productif. On le sait avec un certain nombre de pays où utiliser des mots forts à l'extérieur pour ensuite devoir s'excuser dans la conversation avec les autorités étrangères, ça marche pas. Moi, je suis adepte de la méthode de Jean-Noël Barrot, qui est celle et du président de la République, qui est celle de la fermeté dans les enceintes de négociation et d'une certaine, mesure dans les propos à l'extérieur.
Juste pour comprendre, qu'est-ce qu'un monsieur Tebboune aurait comme intérêt à relâcher Boualem Sansal? Je reviens au début de Karine. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On a plus
il n'a aucun intérêt à relâcher Boualem Sansal. Voilà. Je pense que il va continuer dans cette ligne dure. Quelles sont les solutions? À mon avis, soit autour du 5 juillet, qui sera la fête nationale algérienne, il peut y avoir un geste d'apaisement avec la libération de Boualem Sansal. J'y crois peu. Soit les Algériens peuvent durcir encore. Soit il peut y avoir une crise au sein du pouvoir algérien.
Merci à tous les deux en tout cas. Xavier Driancourt, je rappelle le titre de votre livre, France-Algérie, le double aveuglement, c'est sorti aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous aussi, Agnès Pannier-Runacher. Très belle fin de week-end, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.